C'est l'heure de retrouver l'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier.
Bonjour Laurence.
Alors, ce matin, vous nous parlez du phénomène à la bourse américaine, le phénomène Robinhood, cette application qui a amené des particuliers à investir ou même spéculer, hein, le fameux Robin des Bois.
Voilà, oui, alors on peut le dire, hein, que cette application est aussi bien adulée que détestée, mais personne ne peut en tout cas contester que la plateforme de courtage en ligne, hein, Robinhood, qui a déposé son prospectus en vue d'une introduction en bourse 6 ans seulement après son lancement, quand même, eh bien, a bouleversé le secteur, comme Uber en son temps dans le domaine de la mobilité. Une opération qui pourrait valoriser la société autour de 40 milliards de dollars. Son modèle ludique, gratuit, a vraiment changé la donne, on peut le dire, avec un succès pour une nouvelle génération d'investisseurs aussi. Alors, c'est sa force et sa faiblesse, puisqu'il y a une certaine dépendance aux crypto-actifs, dont on parlait il y a quelques temps dans l'Info Eco Plus, et la tension croissante des régulateurs sur son mode de fonctionnement. Il y a peut-être des risques sur cette plateforme, mais en tout cas, Robinhood voit grand, rendu célèbre donc par son notamment le rôle clé dans la folle spéculation boursière sur des valeurs décotées de Wall Street en début d'année. On rappellera les dossiers GameStop, par exemple. Eh bien, elle entend profiter de ce moment de grâce pour se faire coter en bourse. Elle a déposé donc ce document révélant les chiffres de sa folle croissance. Selon la presse américaine, 18 millions de clients actifs quand même, multipliés par 2 en un an, 79 milliards de dollars d'actifs à fin mars 2021, dont 11 en crypto-actifs. Avec son modèle du tout gratuit, donc cette approche assez simplifiée, eh bien, elle estime avoir convaincu la moitié des nouveaux investisseurs américain depuis le 2016, avec une vraie accélération en début 2021. Le client type de Robinhood, c'est assez intéressant, a un âge médian de 30 ans, plutôt novice en matière boursière. Il faudra donc suivre cette aventure pour voir si les investisseurs restent fidèles à Robinhood, y compris quand la bourse baissera.
Ah ah, grande question. Et puis sujet, un autre sujet, Didier, qui sera sans doute prédominant à la rentrée, on risque d'en parler beaucoup, mais toutes les entreprises y pensent déjà. Quid de la pénurie des travailleurs qualifiés, hein? C'est une autre vraie question. Hein.
Oui, parce que les doutes suscités par le travail à domicile ou les difficultés de la chaîne d'approvisionnement, cette fameuse supply chain, eh bien, s'avère problématique pour certaines entreprises, alors qu'elles tentent de surmonter, bien sûr, la reprise en France après la pandémie, mais elles cherchent aussi à combler les postes vacants. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs chefs d'entreprise lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors, dans cette conférence, certains ont souligné les problèmes de main-d'œuvre persistants, notamment une pénurie de ces travailleurs qualifiés, aggravée par la pandémie de Covid, alors que les patrons, justement, tentaient de répondre à la demande économique renaissante. Un PDG d'un grand fabricant français a déclaré par exemple que son entreprise avait publié 150 offres d'emploi dans 2 usines françaises sans qu'aucun curriculum vitae n'arrive.
Ouais,
la crise a peut-être anesthésié le rapport des gens au travail, ce qu'a-t-il déclaré à ce moment-là. Le problème de recrutement est même plus global, hein, puisque ça arrive aussi aux États-Unis. Eh bien, le gouvernement avait mis en place, on le sait, des mesures de chômage partiel. Des millions de salariés étaient passés également en télétravail. Alors peut-être qu'ils ont apprécié effectivement cette expérience, mais il y a des vraies relations, le sujet, relations avec les collègues, c'est le patron de la Poste qui dit que la fin du travail contractuel traditionnel est une vraie question aujourd'hui sur la table. C'est Philippe Val qui le disait. Une entreprise a pu constater que 20% de ses effectifs ne prenaient même pas la peine de se connecter régulièrement au réseau informatique de l'entreprise, au plus fort des blocages. La moitié des entreprises du bâtiment, par exemple, les entreprises de services, un quart des entreprises industrielles peinent à recruter des travailleurs. C'est donc un sujet sérieux.
Ouais. Autre sujet qui mérite attention, un phénomène, hein, cette année, même s'il a connu des hauts et des bas, du côté des actifs numériques, Didier, cette fois-ci, l'art aussi est en pleine transformation, hein, on peut le dire, hein, de ce point de vue-là.
Oui, alors c'est la vente d'une œuvre d'art chez Christie's, hein, il y a quelques débuts d'année, même 2020, qui avait été réglée en crypto-monnaie, qui avait un peu donné le là de cette année un peu particulière. Il y a eu également des ventes d'art numérique par un galeriste parisien au prix de 30 Ethereum, c'est l'un des crypto-actifs, ça faisait quand même 63 000 euros. Donc, on sent en 2021, on peut dire que le marché de l'art semble connaître un tournant. Il y a eu la montée en puissance de ce crypto-art. Il y avait le phénomène des NFT. Alors, ce sont les non-fungible tokens. En fait, ce sont des pièces numériques uniques, certifiées donc par la blockchain, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une garantie sur ces œuvres d'art, donc, et notamment pour l'art contemporain. Ça permet d'être enregistré, infalsifiable, de le partager en ligne sur un réseau d'ordinateurs, de tracer aussi toutes les transactions de manière décentralisée. Ça peut donc s'appliquer à de nombreux domaines, mais c'est vrai que le marché de l'art a pris part à ce phénomène technique. Pour posséder le titre d'une propriété, d'une image, d'une vidéo, d'un morceau de musique, hein, voire d'un tweet, ce sont des millions de dollars qui sont en jeu. Ce qui est intéressant, Laurent, c'est, même si ça n'est pas toujours facile de se représenter ce qu'il y a, ou niasse de billets, c'est plus simple, mais ces technologies vont sans doute changer la donne sur les marchés, puisque ça donne aux artistes eh bien, d'autres formes de revenus. C'est-à-dire qu'une œuvre n'est pas vendue une seule fois, comme ouais, on vend ça. Un Picasso ou un Monet, eh bien, elle pourra l'être par des jetons numériques à plusieurs reprises. Donc ça peut peut-être aider des artistes peu connus à vendre leur travail, mais aussi pour la rémunération, peut-être qu'avec le succès, eh bien, ils deviendront rentiers de leurs œuvres. Donc c'est vraiment un nouveau phénomène. Quand la technologie s'invite sur le marché de l'art, c'est à suivre. Il y aura forcément des couacs ou des cracks, comme on dit, en bourse, après des bulles, parce qu'on a vu déjà que c'était un petit peu retombé. Mais ça modifie clairement le fonctionnement du marché, son économie. Début mars, effectivement, 2021, Jack Dorsey, le patron de Twitter, avait vendu son tout premier tweet datant de 2006. « Je crée mon compte TWTTR pour un montant de 2,9 millions de dollars. » Et il avait déclaré... Ce n'est pas un simple tweet. Les gens réaliseront dans quelques années la vraie valeur de cette publication, comme la peinture de Mona Lisa. Alors on verra, on verra s'il a raison.
Oui, j'ai des doutes.
Une œuvre de Banksy avait pu être vendue comme ça cette année, 12,9 millions de dollars, baptisée Love in the Air. Elle représentait une image de protestation avec un manifestant avec un bouquet de fleurs à la main plutôt qu'un cocktail Molotov. Et c'est Sotheby's qui avait effectivement fait cette opération. Vous voyez, Laurence, effectivement. Alors moi, je peux confirmer une chose quand même, c'est que vous êtes. Je peux confirmer aux auditeurs et aux auditrices de l'Info Eco Plus que vous êtes bien réel.
Ah
je vous ai vu en vrai.
Bah, je vous remercie, oui, je le confirme. Et je ne pense pas que je pourrais vendre moi mes anciens tweets, je ne sais pas combien de millions d'euros. Le crypto art, waouh. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Didier. Et puis bien sûr, l'Info Eco Plus est réécouté au podcast sur sudradio.fr. À samedi prochain.